RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, content de vous retrouver pour de la discussion et du débat. Vous savez comment ça se passe, c'est au 32-16. 32-16 pour intervenir dans les GG, dans les grandes gueules, en direct jusqu'à midi sur tous nos sujets de discussion. Aujourd'hui avec l'agriculteur Didier Giraud. Bonjour mon cher Didier, agriculteur en Saône-et-Loire.
Salut Alain et bonjour à la France profonde.
Nous sommes avec Fatima Hidbounois, la prof de français. Bonjour Fatima.
Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de Londres et notamment les grandes gueules de Londres que j'ai croisées à Poitiers. Parce que j'ai croisé beaucoup d'auditeurs.
La Pictevine.
La Pictavienne, les Pictaviens.
Et puis nous sommes avec l'homme des Hauts-de-France, monsieur Antoine Diers, le consultant juridique. Bonjour Antoine.
Salut Alain, et bonjour à tous.
Autour de la table.
Voilà, il n'y a pas, notre supporter aujourd'hui. Numéro 1 du Paris Saint-Germain, Olivier Truchot. Le numéro 2 étant Bruno Poncé, mais comme on les aime et qu'on pense à eux, juste pour le plaisir, c'est quelques secondes.
Dembélé qui laisse passer Kvaratskhelia. Oh, deuxième poteau. Désiré Doué, il y a Dembélé qui est servi maintenant sur le côté gauche. Oh, un contre un avec Upamecano. Dembélé, oh le but. Ousmane Dembélé. C'est terminé. Ce match de fou est terminé par une victoire du PSG 5-4.
5-4, c'est Jean-Louis Tour qui était au commentaire en direct sur RMC. Pour certains, c'est même le match du siècle. Alors, tu vas me dire de quel siècle? Peut-être de celui-là, du début, du 21e. 5-4, ça fait 9 buts en demi-finale aller de la Ligue des Champions, PSG Bayern Munich. Match de folie, c'est ce que dit le quotidien allemand Bild. Match de gala, dit Die Welt. Match du siècle, c'est ce que dit Le Sun. Match d'anthologie, dit As, le quotidien madrilène. Historique, c'est ce que dit aussi Tutto Sport. Alors c'est vrai que pour ceux qui aiment le football, c'était match de gala hier soir. Et visiblement, dans le monde entier, tout le monde loue, le commente ce qui s'est passé hier sur la pelouse du Parc des Princes. Mais c'est une demi-finale. Allez, les joueurs sont sortis épuisés. L'entraîneur du Bayern a dit heureusement que c'était pas la finale, parce que je l'aurais perdu. Mais la finale, elle sera mercredi prochain, parce que c'est le match retour, Didier.
La demi-finale retour.
Oui, demi-finale retour. Et pour lui, ouais. Ce sera... Le match final.
Je suis désolé, je vais pas regarder, j'étais au lit. En même temps,
t'aimes le sport, t'aimes le beau sport, t'aimes le beau jeu.
Un 5-4, moi ce que je dis, c'est un peu con d'avoir mené 5-2 et de s'en aller à Munich avec un 5-4. Quoi. Voilà, c'est un peu con.
T'avais le champion d'Allemagne qui a fait une saison hallucinante aussi.
Tout le monde a dit que c'était les deux meilleures équipes de la saison, donc c'est normal que ça fasse un beau match. Après, ça peut faire 1-1 ou 0-0 au match retour. Enfin, tu vois, c'est aussi le jeu des allers-retours. Derrière ça, moi je trouve que c'est dommage pour les Parisiens d'avoir eu autant d'avance et de terminer avec un seul but d'avance.
Antoine, grand spécialiste et grand analyste du 4-4-2.
Comme je dis souvent, je suis pas très bon en foot, mais j'ai écouté les commentaires de ce matin et manifestement les gens se sont régalés. Il y a eu du suspect jusqu'au bout, de l'avance, de la peur, etc. Et voilà, moi j'imagine que ça c'est un beau match à voir. Et donc
est-ce que tu regarderas le match retour? Qui va l'emporter.
Et puis, ce sera en Allemagne en plus.
Oui, c'est en Allemagne, c'est à Munich.
On va en Allemagne tous les deux. Allez, je fais chauffer l'auto.
Fatima, toi, tu vas voir des gamins avec des maillots du PSG dans l'école. Là, parce que c'est ça l'uniforme maintenant quand on vient à l'école, savoir le maillot
de
foot.
Ils sont tellement chers ces maillots maintenant, c'est ça aussi le prix. Non, moi j'ai envoyé tout le monde. Mes fils ont regardé chez le voisin. Et donc j'ai eu après le compte-rendu à la fin en disant mais oui, mais le 2 qui est passé au 4 et tout ça. Et je me suis dit, heureusement que mon voisin, j'ai un voisin, on l'appelle Leblon. Comme dans le sketch de Gad Elmaleh, parce qu'il est parfait. On cherche un défaut, on est en train de se dire. Et donc là, il avait aussi cette qualité de prendre mes enfants et de me laisser tranquille. Donc vive les matchs. J'avais l'appartement pour moi, j'étais heureuse. Merci le PSG pour ce match.
Si vous voulez continuer d'écouter, d'analyser et de commenter surtout vous-même cette demi-finale de folie, eh bien vous avez les émissions d'RMC à disposition à partir de 15h. Le Super Moscato Show, Rotten sans flamme ensuite et l'after jusqu'au bout de la soirée.
Ça va s'enflammer là.
Oui, bien évidemment. Là. Ensuite, Casa. Julien Cazard, le Cazard déchaîné, bien sûr, aussi dans la nuit. Donc, à vous de vous laisser aller au 32-16, bien sûr. Allez, maintenant, je propose de vous laisser aller pour parler de Total et des bénéfices.
5-4.
Servez-vous en samplon 95.
T'en as des chansons sur la guerre maintenant, les amis. Oui, c'est comme ça.
J'avais pas entendu celle-là.
Je peux te dire, si tu tapes guerre en Iran, les parodies avec l'intelligence artificielle, les films, tout ce que tu veux, t'en as pour des heures à regarder ça. Vous allez l'entendre monter tout au long de la journée, la petite musique concernant la taxe des hydrocarbures pour Total Energy, qui a publié aujourd'hui un bénéfice net en hausse de 50% sur un an. Ça fait 5,8 milliards de dollars. Alors, il y a Total, il y a BP aussi, British Petroleum, qui a doublé pour atteindre 3,2 milliards de dollars. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est Total, 5,8. Souvenez-vous aussi que Total avait acheté des stocks de pétrole avant la guerre, avec une petite spéculation, et il avait gagné 1 milliard. La France insoumise et à gauche ont dit, l'argent qu'on veut trouver pour aider les Français, c'est chez Total qu'il faut le prendre. Alors, est-ce qu'il faut taper Total au portefeuille avec ses 5,8 milliards de dollars? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grands gueules, taxer ses super profits. Antoine.
Je suis fasciné. En France, dès que quelqu'un réussit, dès que quelqu'un gagne de l'argent par la force
beaucoup
de son travail, beaucoup d'argent, mais
je l'applique
à toutes les échelles. Depuis le petit qui ferait un joli coup jusqu'à la grande entreprise française qui fait un très très joli coup. Mais on ne peut pas vouloir toujours récupérer l'argent dès que quelqu'un en gagne. Sinon, t'as plus d'intérêt à aller travailler et à vouloir en gagner. Et puis, je rappelle une chose totale, j'ai regardé un petit peu, c'est environ 19 milliards d'impôts et taxes dans le monde, dont 2 milliards payés en France. Total explique, on paye là où on fait nos bénéfices. Effectivement, Total ne fait pas l'essentiel de ses bénéfices en France. Ils font leurs bénéfices à l'étranger, ils font leurs bénéfices en achetant à bon prix, etc. Donc je trouve que au lieu de vouloir les taxer, on devrait se féliciter qu'une entreprise française ait réussi à avoir une très bonne logique commerciale, à acheter au bon moment. Ils sont très bons. Et en plus, ils nous ont fait la remise à la pompe.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est Total qui a fait un geste pour les automobilistes.
Ils l'ont fait que en France, à ma connaissance. Ouais. Donc clairement, Total reste attaché à sa nation
avec
d'origine.
Avec le
ils ont remonté
un petit peu au-dessus de 2 euros. Ils sont revenus à
99. Si dès que quelqu'un gagne de l'argent en France, on va lui prendre, à mon avis, il n'y a plus grand monde qui travaillera demain.
Au moins Antoine est cohérent avec la logique libérale. Au moins t'es un vrai libéral.
Libéral,
et voilà, parce que ce qu'on entend souvent, c'est ceux qui veulent être libéral par moment, et puis après qui vont vouloir taxer de l'autre côté. Ça pose un problème quand même, parce que vous voyez, ça fait 2 semaines que je ne suis pas venue, et finalement on a ce sujet. Il y a 2 semaines, on disait ça y est, la guerre est finie, il y a une trêve, vous allez voir, il va y avoir une répercussion dans les prix. On voit bien que non, on voit bien que ça monte très vite et que ça va descendre très lentement, voire
ça
pas.
Remonte.
On est en train de dire aux gens, comment ça se fait que les gens ne se révoltent pas? Les gilets jaunes étaient dans la rue pour beaucoup moins. Mais vous avez vu les répressions qu'il y a eu. Donc on pense au... Il y a ça, et puis il y a la peur, et il y a la fatigue, et il y a tout ce que vous voulez. Donc les gens, effectivement, ne râlent pas, visiblement. En tout cas, pas dans la rue. Mais je peux vous dire que la colère est bien là. Donc cette question de Total, qui peut leur imposer? Est-ce que le gouvernement va vouloir? Je ne pense pas du tout. Donc j'ai l'impression qu'on se pose cette question-là.
En vain, c'est ça?
En vain, parce que comment vous voulez dire? On ne veut pas poser la question du capitalisme et de
parce que le capitalisme, le marché a gagné partout dans le monde. Aujourd'hui, tu ne peux pas le remettre en cause. Donc, le communisme a échoué partout dans le monde. Le marché a gagné partout dans le monde.
Le marché a gagné. Donc, soit on est capable de remettre en question le capitalisme, et on se dit on n'est pas pour on veut mettre de la morale dans
le capitalisme.
Oui,
mais pourquoi le remettre en question? C'est lui qui nous fait bien vivre aujourd'hui.
Et dans ces cas-là, ce n'est pas étonnant. Voilà.
Didier Giraud.
Écoute, moi, je suis partagé sur cette affaire parce que je pourrais rejoindre Fatima en me disant, finalement, c'est quand même un peu simple d'engranger des bénéfices quand tu vas le piquer dans la poche des gens qui n'ont pas le choix que d'aller faire le plein, quoi.
Ça peut être immoral.
T'as beau être un super investisseur et avoir anticipé la guerre et machin, en même temps, les milliards de bénéfices, ils viennent de la poche des gens qui sont obligés de passer par la pompe.
Mais Total est moins cher que les
autres. Et ça, il y a quand même quelque chose de dérangeant là-dedans. Après, là où je suis partagé, ce matin, pour venir à la gare, je pense devant 5 pompes. de 5 enseignes différentes, la moins chère que j'ai vue, c'est Total.
Total, voilà, c'est ce que
je veux dire. Et à un moment donné, tu peux pas non plus les taxer à outrance quand ces gens-là font l'effort, quoi. Ça fait 2 mois qu'on cherche qui fait des bénéfices.
Il y a l'État aussi, hein.
Non, mais ouais. ça fait deux mois qu'on fait la guerre aux sorcières sur qui a engrangé le bénéfice de la hausse du brut, on va dire comme ça, pour que tout le monde comprenne. Je pense que le gendarme ne peut pas faire le gendarme parce que c'est lui qui prend le plus. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, comme c'est l'État qui prend le plus, il sera incapable d'avoir l'autorité à faire la régulation sur les bénéfices engrangés sur les carburants parce que c'est lui qui prend le plus. Donc quand tu vas convoquer Total, Leclerc ou les n'importe quel raffineur, ouais.
Sur lesquels il y a une
distributeur
espèce...
ou raffineur d'ailleurs, si ouais. tu les convoques pour leur dire vous exagérez sur les marges, les mecs ils vont répondre au ministre qui va les convoquer, mais c'est toi qui fais le plus de marge. Ça ne se fait pas. Donc, la régulation, elle se fera pas. Et aujourd'hui, force est de constater que les seuls qui font l'effort de rendre un peu de marge, c'est Total.
Et surtout, la régulation, on n'a pas forcément les moyens de la faire. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on parle
si,
là.
Si on avait un État fort, on peut.
On avait les mêmes questions. Si vous dire, même, on va se poser la même question sur les sites comme Coco ou quand on est dans les limites de la morale. C'est-à-dire, est-ce qu'on met de la morale dans le marché ou pas?
Qu'est-ce qu'il y a d'immoral?
Il y a un côté profiteur de guerre quand même.
Il vend moins cher que les autres.
Mais non, mais c'est le marché.
On peut dire c'est le marché, c'est le libéralisme, c'est comme ça.
Si quand t'es vraiment immoral, tu vends plus.
Mais non, mais attendez, excusez-moi, c'est juste qu'ils ont été bons, ils ont acheté au bon moment, ils ont réussi à fournir et ils vendent moins cher.
Ils ont augmenté le lendemain. La première bombe est tombée, il avait déjà augmenté le carburant.
Alors, moi, je vous donne un exemple de régulation dans notre pays, c'est le prix des médicaments qui est encadré. Est-ce que vous vous souvenez qu'on subit des pénuries sur certains médicaments régulièrement, tout simplement parce que le prix est encadré en France.
Les gens veulent plus produire pour la France.
Et que du coup, le bonhomme, le producteur de médicaments, il va le vendre ailleurs, là où c'est pas encadré. Et donc, si on encadre le prix du carburant chez nous, on aura des pompes vides. Ils iront le vendre dans un autre pays.
Sauf que t'es pas au milieu du désert, il y a quand même des gens qui encadrent autour de chez nous aujourd'hui.
Les marges.
Mais sauf que, si tu veux.
Ils ont baissé leurs taxes, etc.
Moi, je parlerai pas
d'une forme d'encadrement.
Fatima veut mettre de la morale. C'est pas de la morale. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la politique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pression. Oui, politicienne. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pression. Pression sur le gouvernement. Pression de la part des groupes de gauche qui vont se dire, c'est le moment. Les gars, faut appuyer un gouvernement qui est fragile en disant, qu'est-ce que vous attendez? Il faut rendre de l'argent aux Français. On le voit aujourd'hui que les Français, si tu veux, au quotidien, même si Total a fait un petit geste, effectivement, et il y a la queue devant les stations Total. Aujourd'hui, c'est compliqué.
C'est compliqué de
faire son plein d'essence, compliqué d'arriver à la fin du mois, et ils vont mettre, vous voyez, 5,8 milliards, et là, c'est les super bénéfices contre la fin du mois des Français. Et la pression va être sur le gouvernement.
C'est démagogique, quand même.
Oui, mais ce sera démago, mais est-ce que le gouvernement
va tenir, de la poche des gens, quand même.
Ou est-ce qu'on va dire, tu vois, par exemple, à l'échelle européenne, Fatima, les ministres des Finances des États membres de l'Union européenne veulent faire ce qu'ils appellent l'impôt exceptionnel sur les bénéfices des compagnies énergétiques. Ils l'avaient déjà fait au moment de la guerre en Ukraine, et là ils sont en train de faire une petite tournée européenne pour dire, alors il y a notamment l'Autriche qui est dedans, il y a l'Allemagne, pour dire, allez, c'est le moment, et vous verrez, personne n'y trouvera rien à redire.
Peuvent dire, à situation exceptionnelle, taxe exceptionnelle, ils peuvent avancer comme ça. Mais en face, on peut leur dire, liberté du marché, liberté des bénéfices, on peut vous donner les arguments qu'a donné Antoine, et ça veut dire qu'il y a une question de fond derrière. Ça veut dire, qu'est-ce que le capitalisme, c'est quoi le libéralisme? Et il y a une vraie question, ça veut dire que d'un point de vue politique, il y a des questions qui vont se poser de plus en plus, jusqu'où on peut aller pour vendre, est-ce que les bénéfices qu'on a dans certaines, vous voyez, la question sur Coco, la question sur Total, ça se rejoint, ça veut dire, et surtout quel est le pouvoir de l'État? Moi je crois que l'État va pas pouvoir grand chose, et que c'est Total pour des questions d'image et des questions de pression de l'opinion.
Mais ils ont déjà gagné en faisant un 99.
Ils vont continuer à faire cette politique-là et les gens vont dire merci Total. Mais c'est pas grâce à l'État.
Non, mais tu vois, pour moi, il y a une vraie différence entre le libéralisme, la loi du marché et la spéculation. Et à un moment donné, je pense que
c'est la base.
De niveau international, on devrait lutter contre la spéculation. Parce que là, c'est sur du carburant. Ça a des conséquences sur les gens, mais personne ne meurt. Si demain matin, il y y a, je sais pas, une terrible sécheresse à l'échelle du monde, s'il y a, je sais pas quoi, et que l'enjeu de la spéculation, ça devient la bouffe. Ben les gens, ils mourront,
non, mais
quoi.
Attends, le libéralisme...
Aujourd'hui, on a un cargo de blé, il sent, quand le marché est en baisse, oui, en termes de volume, il change 6 fois de main avant de changer, avant de partir du port. Et à un moment donné, quand on va spéculer sur la bouffe, je pense que ça sera
encore en 2026, le capitalisme, oui, est largement basé sur la spéculation, même dans l'immobilier. Tu vois bien qu'on est dans ce truc là où on essaye de...
Ah oui, mais à un moment donné, il faudrait peut-être redissocier un peu les deux, quoi.
De là où je vis, non, non.
Non, pas de...
Je suis le locataire.
D'accord. Thierry, bonjour. Parce que les propriétaires, ils sont aussi contents quand ils revendent plus cher leur logement, quoi, qu'ils ont acheté 20 ou 30 ans.
C'est pour ça que
Thierry Routier, du côté de l'Ardèche. Qu'est-ce que vous en pensez? On doit taper Total au portefeuille ou pas, là, alors?
Mais, alors, Total a déjà accepté, avant qu'on le lui demande,
oui, c'est de plafonner
à 2 euros les carburants en France. Il a déjà fait avant même qu'on le lui demande. Moi, je voudrais rendre hommage aux dirigeants de chez Total qui ont regardé un peu loin devant eux et qui ont anticipé, en sachant très bien que notre ami Trump et les autres allaient mettre un peu leur pagaille. D'accord. Donc, il a anticipé. C'est exactement comme si un jour, malheureusement, il ne devait plus y avoir de vaches, ni de veaux, ni de taureaux en France, et que notre ami Giraud nous achète tous les poulets partout, en Ukraine, en Europe, partout. C'est-à-dire, ce mec-là, il va acheter un poulet 1 euro, il va le vendre 3 euros, il va se faire 2 euros de bénéfice. Et là, moi, je dis, ce mec-là est un génie. Donc, moi, ce qu'il a fait pouillonner, c'est très bien. Et il a déjà fait profiter aux Français, de mon point de vue. Donc, je vois pas bien. L'État, il va les taxer. Il va taxer quoi? Il va taxer les bénéfices. Total, il va dire, très bien, d'accord. Et dès qu'il va pouvoir, il va mettre son capital à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on aura gagné, nous, Mélenchon? Waouh! C'est génial de gagner Mélenchon.
Thierry, pas
ça fait pas avancer les voitures, surtout Thierry. Hein.
Chauffeur routier qui aura conclu notre discussion. Bonne route Thierry, merci d'avoir été avec nous.
Bon
Thierry, et salut, merci Thierry dans l'Ardèche. Est-ce qu'il faut taper au portefeuille? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. On va voir ce que vous en dites, oui ou non. On va regarder. C'est assez partagé quand même. C'est non à 53,5%.
C'est juste, mais je reste
oui,
en France.
Oui, 46,5%. Et pendant ce temps, on a nos agriculteurs qui tirent la langue. On a le résultat de cette étude. 43% d'entre eux touchent moins que le SMIC. Les agriculteurs, pourquoi est-ce qu'ils ne s'en sortent pas? On va regarder vraiment profession par profession, secteur d'activité par secteur d'activité, combien ils gagnent. On a notre ami Didier Giraud qui est là. Pourquoi les agriculteurs n'arrivent pas à s'en sortir? 32-16 pour en discuter avec les GG. Il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, c'est avec Fatima Hidounoua, la prof de français, le consultant juridique Antoine Dierce, et puis notre ami agriculteur Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire. Justement, on voulait profiter de la présence de Didier pour parler de cette enquête sur le revenu des agriculteurs. En France, 43% des agriculteurs ne dégagent même pas un SMIC de leur activité. Ils gagnent moins de 1450 euros net par mois. Quand on regarde secteur d'activité par secteur d'activité, l'élevage bovin, viande, c'est Didier, c'est entre 1400 et 1500 euros par mois en moyenne. La viticulture, on tourne autour de 2005 à 2008. L'arboriculture, le maraîchage, 2000-2800 mensuels. Les grandes cultures, là on est chez les céréaliers, c'est le résultat de cette étude, 2000 euros. Et l'élevage porcin, 1700 à 2000 euros selon les cycles de prix. En fait, aujourd'hui, si on voulait garantir un revenu de base moyen pour vivre aux agriculteurs, il manque 3,3 milliards d'euros. Alors certains plaident pour est-ce que les agriculteurs aient un... Si tu veux une espèce de revenu minimum garanti,
ah oui.
pourquoi est-ce que les agriculteurs ne s'en sortent toujours pas? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. On se souvient des grands discours d'après Covid.
Hein. C'est ça.
Mangeons local, privilégions le made in France, ceux qui font tourner la machine, privilégions les agriculteurs.
La prise de conscience des manifs de 2024 aussi, quoi.
Ouais. Enfin,
où tout le monde était main sur le cœur en disant plus jamais. Pourquoi les agriculteurs s'en sortent pas? Enfin, j'ai longtemps cherché à résumer la situation. D'abord parce que c'est pas eux qui fixent leur prix et que du coup ça devient très souvent la variable d'ajustement. Celui qui produit la matière première, alors ça vaut pour l'agriculture mais pas que. Il y a d'autres secteurs d'activité où il y a des gens qui produisent la matière première. C'est la variable d'ajustement donc dans l'arbitrage des ménages. Parce que quand ça sert, eh ben, on sert sur la qualité des aliments qu'on met dans notre assiette. Donc indirectement, on sert l'agriculteur. Et c'est la variable d'ajustement des filières. Puisque c'est celui qui est au début de la chaîne et qui fixe pas lui-même son prix. Donc à un moment donné, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation où les agriculteurs depuis 50 ans globalement sont la cinquième roue du carrosse en termes de revenus. Alors derrière ça, faut distinguer, tu l'as fait, il y a quand même les agricultures et les métiers dans l'agriculture. Ce qui pèse sur le résultat global, c'est que les céréaliers ont fait une mauvaise année parce que ça joue tout ça sur un marché européen voire mondial à 2% de production près, et comme on a fait plus 5% en céréales, bah les prix se sont effondrés, et du blé qui valait aux alentours de 300 euros tonne il y a 3 ans, il est rendu à 120-130 euros tonne, quoi. Donc en gros, les gens, avec des intrants qui montent, avec du matériel qui augmente, avec des charges qui font toujours plus, les gens, ils produisent plutôt à perte, quoi. Et derrière ça, tout le monde peut dire la main sur le cœur, on va aider les agriculteurs. N'empêche que tous les citoyens, quand ils sont en train de pousser leur caddie, ils lisent très peu les étiquettes et ils vont au plus offrant. C'est la loi du marché.
Antoine, et puis ensuite, on va aller du côté de la Vendée retrouver Pascal, qui est agriculteur, qui est bovin, comme l'ami Didier.
Ouais. On peut réfléchir le marché en se disant le prix de vente est trop faible. C'est juste, ils sont très bas les prix de vente, les prix d'achat des matières premières. On peut aussi réfléchir le marché en disant si le prix est celui-ci, je dois avoir un coût de revient qui est inférieur. Et je crois qu'on impose à nos agriculteurs français des coûts cachés dans nos normes, dans ce qu'ils ont droit de faire, dans le fait aussi que nos exploitations sont pas parmi les plus grandes au monde, donc il y a pas de, on n'arrive pas à faire.
Ça, c'est une volonté aussi.
Alors, moi, je pense que on doit absolument avoir des grandes exploitations. Dans mon coin, dans le Nord, il y avait un feuilleton agricole pendant longtemps, la ferme des 1000 vaches. Ouais. Un investisseur avait voulu faire une ferme à 1000 vaches.
Mais tout le monde avait dit, il y en avait 550 et
il a jamais pu monter beaucoup plus haut à cause des autorisations, etc. Bah pardon, mais si la ferme est plus grande, si le champ est plus vaste, les coûts de production diminuent. Et donc là, on arrive à peut-être diminuer son coût pour arriver à avoir un prix.
T'as des productions aussi qui mettent en œuvre de la manœuvre. Alors, salarié, et pareil, du coup, le coût de la manœuvre en France, il est plombé. Derrière ça, comment on se rapprochera du coût mondial? D'ailleurs, je sais pas s'il faut qu'on se rapproche du coût mondial. Et peut-être qu'il y a un type de production qui produit un type de bouffe. Et puis, il y a un autre type d'exploitation qui produit un autre type de bouffe. Et aujourd'hui, la France, on est quand même plutôt sur des marchés de niche. Et la production de masse pour le marché mondial, on l'a délégué. Je rappelle juste trois chiffres. On produit à peine 85% de la viande bovine qu'on consomme. On produit à peine 40% des volailles qu'on consomme. Et on produit exporte. 50% des fruits et légumes qu'on consomme. Ça veut dire que cet enjeu de revenus des agriculteurs...
On pourrait être autosuffisant ou pas?
On l'a été pendant des décennies.
Oui, d'accord, mais est-ce que...
On l'est plus, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de manœuvres, il n'y a plus assez de bras. D'accord. Aujourd'hui, cette pénurie de revenus, ça crée une pénurie d'agriculteurs. Il y a dans mes zones des fermes qui dans 15 ans seront en friche. Et cette pénurie d'agriculteurs, elle crée une pénurie de produits, tout simplement. Et aujourd'hui, la question qui se pose, quant au revenu des agriculteurs, c'est indirectement l'indépendance alimentaire du pays. Quoi.
Fatima Aïd-Bounoua, puis on va voir Pascal.
Vous vous souvenez, après le Covid aussi, on disait la France d'après, à quoi va ressembler la France d'après? Et parmi les certitudes, il y a toutes ces personnes... et notamment des politiques, qui redécouvraient les travailleurs. Parce que c'est ça la question. C'est pas simplement la question des agriculteurs. C'est la question de vivre dignement de son travail. Et cette question, on se la pose pour les soignants. Vous vous rappelez, on applaudissait les infirmières. Donc regarde, c'est la même chose. Les agriculteurs, on va dire, ils nous nourrissent. Les premiers de cordée, on va dire, pour les professeurs, tous ceux qu'on a redécouverts à ce moment-là.
Service à la personne.
On a vite fait d'oublier après. Et au moment, et pareil pour la souveraineté alimentaire, pour l'indépendance alimentaire, c'est au moment où on aura un gros problème. Dans 10 ans, s'il y a un gros problème ou s'il y a plus de jeunes agriculteurs, on dira, c'est curieux qu'ils désertent ce métier. Mais c'est comment? À un moment, il faut être cohérent. On fait tout pour que.
Oui, mais Didier, il a pointé du doigt la responsabilité des consommateurs aussi.
Agriculteur, même.
Est-ce que tu consommes français? Est-ce que tu achètes français?
Alors, justement, on en a parlé.
Il y a la responsabilité.
Mais pas seulement. Ça veut dire, il y a le pouvoir d'achat du consommateur. Et il y a aussi, la dernière fois, on parlait de la viande. Et tu disais que sur les, quand la viande avait augmenté de 20%, tu te souviens? Et donc, on parlait de comment ça se fait. Finalement, il y a aussi les intermédiaires qui se font pas mal de marge aussi.
Ouais, bien sûr.
Et on a fait un moment, on parlait que du consommateur. Vous vous rappelez, c'était à l'époque de qui c'est le patron qu'on avait sorti pour le lait, pour, vous rappelez pour,
c'est qui le patron?
Essayer d'intégrer
Nicolas Chaban.
Le slip pensé, tout ça. Mais c'est pas simplement nous avec nos petites mains qu'on responsabilise. Bah,
carrément. Parce que tu vois, si les politiques sont des poltrons, le consommateur, avec sa carte bleue, il a un vrai pouvoir, quoi.
On n'a pas ce
aujourd'hui, et où je renvoie un peu la responsabilité au consommateur, c'est parce que le consommateur, il fait des arbitrages.
Alors, Pascal est avec nous du côté de la Vendée. Bonjour, Pascal.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue. Vous faites partie de ces agriculteurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller au-delà du SMIC?
Ah si, moi, j'arrive au-dessus du SMIC, mais c'est parce que je suis donc en fin de carrière. Donc, et j'ai une partie d'amorti au niveau de mes installations. Alors, je vous ai écouté, là. Donc, j'ai écouté Didier, donc, il a dit des choses vraies. De toute façon, c'est pas nous qui fixons notre prix, sauf nous, dans le cas de, en vente directe. Ouais. Et je pense que c'est à partir de là qu'on arrive à savoir si c'est intéressant de produire ou pas. Par contre, j'ai entendu le monsieur qui va parler de la grandeur des fermes. Il a parlé de l'affaire des 1000 vaches. Alors, mais il a dit des bêtises. Parce que l'affaire des 1000 vaches, elle a tombé. Pourquoi? Parce que la personne n'arrivait pas à avoir des salariés compétents pour faire son travail et que le coût de la main-d'œuvre ne permettait pas de dégager de la marge par rapport à son exploitation.
Ça, peut-être aussi, donc, mais elle n'a pas eu les normes pour monter à 1000 vaches. Ça c'est tout
ce que
j'ai dit.
Non, mais il y a eu un problème de normes qui a été résolu. Attendez, laissez finir Pascal, allez-y.
C'est faux. Bon. Il avait des possibilités, sauf que le problème, c'était la main-d'œuvre. Comme a dit Didier, ça ne se fait pas tout seul. Et notre main-d'œuvre au prix, elle est nous, on ne peut pas par rapport au prix du lait à laquelle il était vendu. La raison, elle est juste là. Bon, les grandes exploitations, moi, j'y crois pas trop.
D'accord.
Pas chez nous. Par contre, les plus petites exploitations bien gérées, oui, à condition que les agriculteurs prennent les choses en main.
Ouais, mais enfin, Pascal, ce qui est gênant là-dedans, c'est qu'on dit une exploitation, elle est pas capable d'avoir des salariés au coût de la main-d'œuvre en France. Voilà. Par contre, elle tourne bien. Si c'est un exploitant qui fait le double du travail d'un salarié et qui prend à peine un SMIC. Enfin, à un moment donné, il y a aussi un vrai problème là-dessous, quoi.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qui veut donc dire que si on veut conserver une agriculture en France et si on veut vendre des produits français, il va falloir payer le produit. Parce que nous, les jeunes, ils vont pas s'installer derrière nous s'ils ne gagnent pas leur vie. Et ils auront leur raison. Donc, je pense que, et en plus, le prix n'est même pas le réel prix parce qu'on est subventionné. Si on rajoute les aides et qu'on rajoute ça sur notre prix, on arrive à des
Pascal,
prix.
D'accord, mais là, en ce moment, avec la crise qu'il y a sur les carburants, la manière dont les Français serrent le budget, on voit bien que le budget alimentation, aujourd'hui, c'est plus le budget prioritaire. Mais aujourd'hui, prioritaire des Français,
l'agriculteur, il en met aussi du gasoil à l'un.
Non, mais
quoi,
je dis pas le contraire.
Et ça grève aussi son revenu.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais comme l'agriculteur, il attend à ce qu'on paye ses produits qu'on achète français, si tu veux, et qu'on les lui achète bien pour pouvoir vivre, je dis que dans les situations compliquées comme aujourd'hui, c'est pas demain la veille.
Non, mais c'est aussi un faux débat, ça. Je suis désolé, un kilo de pot-au-feu de chez ton boucher, ça coûte pas plus cher qu'une pizza ou des cannellonis congelés. Par contre, quand tu fais ton arbitrage pour remplir ton panier, jamais il y a personne qui se pose la question d'arrêter Netflix, d'arrêter tous les abonnements, d'arrêter... Et à un moment donné, tout le monde a un iPhone à 1500 balles dans la poche, mais ça les fait chier de payer du pot-au-feu 6 euros le kilo, quoi. Tu vois, il y a un moment donné, je veux bien que la vie, elle a changé, je veux bien que la ménagère travaille et qu'elle a plus le temps de cuisiner, mais il y a aussi des gens qui font des choix pour ne plus consommer français, quoi.
On a Rémi qui veut intervenir, qui est du côté de l'Hérault, mais qui est agriculteur aussi. Bonjour Rémi, bienvenue.
Bonjour les GG.
Vous arrivez à sortir au-delà du SMIC ou pas, vous, Rémi?
Pour être honnête, en ce moment, non. Et c'est rare qu'on le dise parce qu'on n'a pas envie de montrer ça aussi, mais en tout cas, on essaye d'aller de l'avant et se diversifier, notamment sur des exploitations, même en reprise d'exploitation. Et ça a été dit, beaucoup de choses ont été dites, mais moi, il y a une chose, en fait. S'il y a du revenu derrière, il y a de l'attractivité, il y a de l'investissement, il y a du changement de nos pratiques pour s'améliorer, pour embaucher. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le problème que l'on a, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis installé. Les prix, alors, à la base, j'étais viticulteur. Je suis devenu aussi éleveur. Je suis devenu aussi maraîcher pour essayer de m'en sortir. Mais aujourd'hui, les prix stagnent, voire baissent. Et les charges, par contre, depuis 5-6 ans, augmentent de 25-30%.
Elles explosent.
Et en fait, aujourd'hui, le peu de marge que l'on avait pour investir, pour vivre, tout simplement, c'est que, on le bouffe, clairement. financièrement, on n'a plus de trésorerie pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on veut planter des légumes, par exemple. Ben, il faut donner 50% de la compte. Et il faut réserver plus de la moitié de l'année de plants. Donc, je vous laisse imaginer à une grande échelle les montants que ça fait à sortir sans rien faire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe une bonne commande, on sort beaucoup d'argent. Donc, c'est là le problème. Et comme ça a été dit aussi, les quelques subventions que l'on a, ça masque aussi la réalité. Par contre, là où, oui, les Français ont affaire, c'est que dans leur acte d'achat. Et moi, je suis désolé, quand on va direct producteur, je vends des légumes en direct, je ne suis pas plus cher qu'en supermarché. Voire voilà. Souvent moins cher sur la plupart des produits.
Et en supermarché, c'est des tomates et des fruits espagnols.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui...
Qui sont cultivés avec des produits qui sont interdits chez vous. Enfin, disons-le, quoi.
On a des tomates qui commencent à arriver dans le département. On a attendu un petit peu pour les mettre en vente à nos consommateurs aussi, à nos clients, parce qu'on leur a dit, attendez qu'elles aient un peu plus de goût, attendez qu'elles soient vraiment de saison, etc. Il faut aussi créer l'envie. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'éducation alimentaire, et nous, on se bat aussi pour ça. Bah. Et je me bats particulièrement avec les jeunes agriculteurs, entre autres, etc., pour redonner du goût à l'alimentation de saison, aux bonnes choses, parce que il faut créer l'envie. Moi, j'ai envie de manger des tomates, je m'interdis de manger des tomates en ce moment. J'attends la fin de semaine d'aller chez mon collègue à côté pour manger une bonne tomate. Parce que mois de juillet, j'aurais plus envie d'en manger.
Ouais, vous avez raison, Rémi. Mais d'ailleurs, ce sera un sujet dans la deuxième heure des GG, de la deuxième heure des Grandes Gueules. C'est les produits transformés, l'alerte sur les produits transformés qui provoquent aujourd'hui des problèmes de santé et d'obésité. Et en Angleterre, ils ont décidé d'interdire la publicité pour les produits transformés. Est-ce que ça peut être efficace ou pas? On en parlera tout à l'heure dans la deuxième heure des GG. Je remercie Rémi et Pascal d'avoir été avec nous. Mot de la fin, Fatima.
Rémi a dit un truc très important au début. Il a dit, voilà, mais on n'a pas envie de montrer ça aussi.
Bien sûr.
Voilà, on n'a pas envie de montrer ça. Moi, je vous dis, la dignité du travailleur, la dignité des gens qui souffrent actuellement en France, il y a plein de gens très dignes qui ont envie de vivre de leur travail, qui n'ont pas l'habitude de demander, qui n'ont pas été élevés comme ça, qui ont des valeurs et qui ne vont pas se plaindre, parce que ça ne se fait pas de se plaindre et tout ça. Et les politiques profitent de ça. Moi, je trouve qu'ils profitent de ça. Normalement, ils devraient être là. Un politique, ça anticipe et ça voit. On n'a pas besoin d'exhiber sa souffrance. On n'a pas besoin de venir réclamer pour qu'ils disent « Ah, il y a un dysfonctionnement ». Et ce qui arrive en France et qui est très, très grave, c'est qu'on est obligé de lutter, là, pour la base. La base, je travaille dur, je gagne ma vie. Je gagne plus que le SMIC. Ça, c'est la base. Normalement, il n'y a pas une question de parti, c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est la base. Sans ça, un pays n'est pas viable.
Vraiment. Dans un instant, avec les GG, avec les Grandes Gueules, il est 10h20. Dans un instant, avec les Grandes Gueules, on s'intéressera à où on s'en fout pas. Avec Bernard Cazeneuve sur la ligne de départ à gauche aussi. La réouverture du site Coco, vous savez, le site sur lequel on retrouvait des prédateurs sexuels. Restez avec les GG, on va voir si elles s'en foutent ou pas. Antoine Dierce, Fatima Hidbounois et Didier Giraud.
Imaginez, c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas réel. Imaginez une boutique où je mets des enfants à vendre. En disant, voilà, celle-ci, il a 5 ans, regarde, il a 14 ans. Tiens, on veut violer ma femme endormie, il n'y a pas de problème. Si c'était une boutique réelle, mais tout le monde serait complètement horrifié.
Que Cocoland et virtuel, ne vend rien.
On se dit, et met en relation.
Cocoland, c'est un lieu de rencontre. Alors, il y a beaucoup de dégueulasseries dans le monde, il y a des perversions absolues, mais c'est comme la place du village. Et donc, il y avait des gens qui faisaient des trucs bizarres, ils se rencontraient sur la place du village. C'est la place du village d'Internet.
Mais moi,
donc, on va interdire les places de village parce qu'il se passe de mauvaises choses sur les places de village?
Non, mais place des pédocriminels, c'est la place des agressions sexuelles.
Attendez, je n'essaye pas de défendre Cocoland, de qui que ce soit, mais on démontre que à vouloir interdire le site, en fait, il s'en recrée un autre ailleurs, etc. Et on ne parle toujours pas
de la responsabilité.
Non, mais parlons de responsabilité individuelle. C'est celui qui fait des propositions salaces à une gamine de 13 ans sur le site qui doit être sanctionné.
On n'a pas les moyens de ça, Antoine.
Ben, pourquoi? Non, mais c'est bien là le problème.
L'anonymat sur Internet, ça n'existe pas. Tu retrouves, tu remontes les IP, les trucs.
Complètement. Il y a des gens plus seuls qui arrivent à retrouver les pédocriminels. Père avait retrouvé les pédocriminels qui parlaient à sa fille sur Internet tout seul. Et le mec, c'est pas un génie de l'informatique. Et il a eu la présence d'esprit après d'appeler la police et de pas faire justice lui-même à la fin. Mais il y a aussi ces moyens-là. Il faut que ces moyens soient mis. On est capable de voir quand les gens n'ont pas payé des impôts ou quand on va écrire, je ne sais pas, t'es parti en vacances et tu devais pas être en vacances. vacances. Ils sont capables de voir. On doit être capable de voir quand il y a un pédocriminel qui fait des propositions de ce type.
Non, mais moi, je crois que c'est ça. L'action, ça doit pas être sur le site, mais ça doit être donner des moyens à des enquêteurs qui sont dans la cybercriminalité, qui vont chercher ces mecs-là. C'est là où on doit avoir une action. C'est pas sur un site de rencontre, mais c'est bien de choper des profils de pédocriminels. C'est ça qu'on doit faire. Et aujourd'hui, la police virtuelle, on va dire, c'est les mecs, ils sont en 4L, quoi.
Bah oui, voilà, c'est ça. Hein,
ils sont 4 dans une 4L, donc il nous faut des armées de policiers virtuels dans des Alpines. Voilà.
On enchaîne.
La patrouille des éléphants, oui, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, ses politiques sur le retour qui se voient en sauveur de la France. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Antoine ?
On s'en fout pas.
Fatima ?
Ah, j'ai bien envie de dire comme Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais ça serait vulgaire. Et là, j'ai bien envie de dire je m'en fous, car je le dis là, je m'en fous. Mais
tu t'y intéresses même pas.
Mais je m'en fous tellement. Bon. Et je m'en fous. Voilà, Didier, est-ce que vraiment.
Alors vraiment, là, tu t'en fous. Voilà, c'est bon.
Didier.
Du coup, je m'en fous pas.
2027, les GG, pourrait être l'élection qui rassemble le plus d'anciens premiers ministres, écrivait le Parisien hier. Édouard Philippe, déjà candidat, Gabriel Attal, en passe de lettres, pourrait être concurrencé par deux de leurs prédécesseurs, donc Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, qui n'exclut pas de se lancer dans la course à l'Élysée. Cazeneuve est prêt, c'est ce qu'il dit dans le Figaro ce matin. À cela s'ajoute carrément un ancien président, François Hollande.
La boule.
Didier.
Non, mais ce qu'ils se rendent pas compte, la bande des losers, là, parce que, enfin, on va se le dire, c'est tous des losers. Ils se sont tous fait dégager. Ils ont tous fini Hollande le premier à 10% dans les sondages, tellement il était bas, il a même pas osé se représenter. Et là, il croit que 10 ans après, on a oublié, il va revenir comme ça, tranquillos, et tout va bien se passer. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la politique, parce qu'ils ont été incapables de redresser le pays, voire ils ont contribué à l'emmener encore plus bas. Et je pense qu'ils exaspèrent les gens de la politique. Mais de la politique au sens large,
je veux dire.
Oui. Et ces manœuvres de retour des éléphants du PS endormis, je sais pas quoi, moi, sous Trinxène, là, pendant qu'ils étaient au pouvoir, qui nous font croire que quand ils vont arriver, tout va aller mieux, et ben, c'est une formidable usine à faire de l'abstention.
Antoine.
Je suis partagé. Je pourrais penser comme toi, et en même temps, alors voilà, absence de renouvellement, t'aimerais voir des nouveaux visages, mais en même temps,
y a personne.
On préfère encore la gauche de Cazeneuve, Valls et Hollande que la gauche actuelle de Faure, Mélenchon, etc. Et donc, j'ai quand même le sentiment que c'est les papis de gauche de la politique qui se disent, mais qu'est-ce que sont devenus nos enfants, là?
Ils sont un peu plus rassurants.
Idiots, ils font n'importe quoi. Et donc, c'est la social-démocratie qui veut revenir et qui veut reprendre
ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est les frondeurs du temps de Hollande, hein.
Oui, je suis d'accord. Mais en fait, moi, je suis pas de gauche. Mais je préférerais. T'avais un doute, je suis pas de gauche. Je l'annonce aujourd'hui. Mais je préférerais encore un Bernard Cazeneuve qui voilà, il est social-démocrate. Mais au moins, il est pas fou comme la moitié de la gauche aujourd'hui.
Sauf que tu ne vois pas la valeur ajoutée.
Et pourquoi fou?
Tu vois, c'est exactement. C'est pourquoi faire. Moi, s'il y avait dans l'interview du Figaro, tu vois, des idées nouvelles.
Je suis d'accord avec ça.
Je veux dire, on enfonce des portes ouvertes, le danger du Rassemblement National, il faut que la démocratie l'emporte, tu vois, il faut poser les valeurs.
Il y a la TVA sociale de Valls.
La TVA sociale, ça a jamais marché, c'est impopulaire. Ça
n'a jamais été appliqué.
Plus la gauche est divisée, plus je suis content, moi. Donc c'est pour ça que je pousse.
Et à côté de ça, il y a des inconnus. Plein de qualités qui, eux, vont se poser mille questions sur leur crédibilité.
Il y a des règles dans cette émission.
Je ne vais pas en parler, effectivement.
Bon. J'ai un rendez-vous à vous donner dans les GG, puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi, à 11h tout à l'heure. Qui sera notre invité? Notre invité, son surnom, c'est The King TV, le roi de télé. Mais il s'appelle Christian, il est gestionnaire de paye. Et Christian, il a un surnom aujourd'hui, c'est le justicier du métro. Vous en avez sûrement entendu parler. Christian, en fait, il descend dans le métro parisien, dans les transports en commun, ou même sur la place, dans la rue, et il filme les pickpockets. il les filme avec son téléphone et ensuite il les asperge de spray en disant je rends service à tout le monde là où la police ne peut pas parce qu'elle ne peut pas être partout. Eh bien, le justicier du TikToker justicier du métro sera avec nous tout à l'heure à 11h. Dans un instant, Roubaix, un cahier confisqué, un adolescent de 15 ans va à la cantine, prend un couteau et poursuit ensuite son professeur. 32-16 pour en discuter avec nous.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.